Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de passer l'heure qui vient avec vous. On va se balader, voir du pays, rencontrer un tas de gens qui vivent des choses passionnantes. Et c'est en Algérie qu'on posera d'abord le micro. Ce pays qui continue de bouger, d'avancer depuis les premières manifs du 22 février. Les Algériens se réapproprient l'espace public, la parole. Et en fait, ils font de la politique, la vraie, dans des comités, des assemblées, des forums. On va écouter cette société civile qui prend les choses en main. Puis on ira aux États-Unis découvrir un phénomène politique. Il a un nom imprononçable et vient de se lancer dans la campagne des primaires démocrates. Pete Buttigieg a 37 ans, maire d'une petite ville d'Indiana. Et c'est un as qui séduit tous ceux qu'il croise, vous l'entendrez. Vous rencontrerez aussi la cacique Tanoné, une grande chef amérindienne du Brésil. Elle est venue avec ses parures et sa belle dignité nous parler des menaces qui pèsent sur sa communauté. Et au-delà de sa tribu, avec Saba Rahmani, auteur et anthropologue, on évoquera les peuples indigènes, véritables gardiens de la biodiversité dans le monde. Un livre dans le monde, le roman qu'a choisi Nicolas Caro nous transportera en Tasmanie. Quant à Joseph, il nous convie à un petit voyage au cœur de cathédrales en tout genre. Les carnets sont ouverts, on prend la direction d'Alger. Avant-hier, c'était le 9e vendredi de mobilisation de la rue algérienne. Les citoyens, toujours aussi déterminés et nombreux, qui réclament la fin du système installé sous Bouteflika. Barakat, ce système, ça suffit, scandait la foule devant la Grande Poste, point de ralliement de la contestation au centre d'Alger, ou encore Ben Salah dégage. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Sophie.
Grand reporter d'Europe 1. Vous étiez en Algérie la semaine dernière. On a l'impression que semaine après semaine, la rue ne lâche rien et obtient des résultats.
Alors, de petits résultats, de petites avancées pas à pas, même si c'est vrai qu'on a appris cette semaine la démission du président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïd. Et c'est vrai que c'est une victoire pour la rue, parce qu'il faisait vraiment partie des personnalités qui cristallisent le plus la contestation, surtout qu'à son poste, c'est lui qui devait superviser toute l'élection présidentielle qui est annoncée pour le mois de juillet. Donc, il part. Le problème, c'est qu'il est remplacé par son numéro 2 qui apparaît lui aussi comme un cadre du régime qui fait tout autant partie du système Bouteflika qui est rejeté. Donc, c'est très clair, ça ne suffit pas à apaiser la colère. C'est kiff-kiff, voilà ce qu'on entendait et ce qu'on lisait sur les pancartes. Ouais. Vendredi, il y a eu encore beaucoup de monde dans les rues partout en Algérie. La revendication, c'est toujours la même, c'est que tout le système s'en aille, y compris le gouvernement et le président par intérim, Ben Salah.
Alors voilà, c'est le nouvel homme fort de la transition, Abdelkader Ben Salah, qui consulte.
Oui, alors il tente d'apparaître un peu comme l'homme du dialogue de l'apaisement. Il propose des consultations aux autres partis politiques. Demain, il invite une centaine de personnalités à une grande conférence et il promet de nommer une commission indépendante pour surveiller les élections. Mais en fait, là-bas, personne semble y croire. Les manifestants n'ont aucune confiance en tous ces anciens cadres du régime Bouteflika pour organiser un scrutin libre. Et plusieurs figures de l'opposition ont déjà annoncé qu'elles vont boycotter ces rencontres. En fait, les manifestants refusent de toute façon la perspective d'élection dès le mois de juillet. Pour eux, il faut sortir de la constitution actuelle, il faut faire tomber les institutions, prendre plus de temps pour construire une vraie transition, peut-être vers une assemblée constituante, en confiant cette transition à des personnalités qui seraient vraiment indépendantes et qui n'ont jamais été liées au système Bouteflika.
Ce qu'on voit, ce qu'on entend, on va l'entendre, ce sont des Algériens bien décidés à ne pas se laisser voler leur révolution tranquille. On va écouter votre reportage à Alger la semaine dernière et entendre comment cette société civile s'est complètement emparée du débat.
Un micro, une petite enceinte grésillante et une cinquantaine de personnes debout en arc de cercle dans ce petit square du centre-ville d'Alger. Un débat en place publique, déjà une victoire.
Aujourd'hui, le mur de la peur.
Abdelwahad Fersaoui bataille depuis des années pour réveiller les jeunes à la citoyenneté à travers son association RAGE. C'est lui qui a décidé de briser le tabou aujourd'hui, organiser un débat au grand jour, une première.
On n'avait pas d'autorisation. Avant, c'était un système autoritaire. On ne nous donne pas des autorisations pour nos rencontres en plein public. Les activités de l'association elles sont réduites aux activités à l'intérieur du siège. Donc là, le peuple algérien s'est libéré et s'est réapproprié d'espace public. Il n'y a plus de peur. C'est c'est la renaissance de l'Algérie.
Il y a ici des militants associatifs, des étudiants, des professeurs, mais aussi de simples passants qui s'arrêtent jeter une oreille.
Moi, personnellement, j'opte pour une constituante.
Le micro circule de main en main, chacun imaginant son scénario de sortie de crise.
Il faut écrire une nouvelle constitution qu'on va proposer à nos concitoyens.
Et décrivant la démocratie dont il rêve.
J'en ai marre d'un gouvernement présidentiel. Je veux un régime parlementaire.
Ces deux militants des droits de l'homme n'en reviennent pas.
C'est une grande respiration. Il y a eu une chape de plomb pendant 20 ans. Tout était verrouillé. Donc les Algériens se réapproprient le droit à la parole.
On se réunit pour parler politique. On se réunit pour parler des alternatives politiques. C'est juste super. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre en Algérie. Là, il y a eu des citoyens, pour la première fois dans leur vie, ils prennent la parole en public. Ils ne sont pas habitués, donc ils avaient le trac. Mais ils avaient tellement envie de participer qu'ils ont pris la parole, même pour dire une petite chose, dire voilà, il faut qu'on continue, c'est tout.
On veut s'appartenir.
Abdelatif, un professeur à la retraite, observe la scène avec émotion. La société a si longtemps été endormie, dit-il. Alors voir ces jeunes reprendre le devant de la scène le remplit d'espoir.
L'avenir, il se prépare dès maintenant. Qu'est-ce que va être l'Algérie demain? Quelle vision, etc. Toutes ces questions qui ne sont pas encore posées. Pour faire émerger, par exemple, des leaders, c'est dans les discussions, dans les débats de quartier, c'est dans les confrontations où on ne sera pas tous du même bord si on veut construire une société plurielle.
Et cette vie politique nouvelle se construit jusqu'au cœur des manifestations, sous les banderoles, le vendredi. Là-bas aussi, on débat et on tente de s'organiser.
C'est la discussion avec les citoyens, etc. On est arrivé d'accord pour faire des comités, parce que ce système de chefs qui nous descend du ciel, là, contre les peuples, non. On discute donc d'une véritable assemblée.
Et voici donc leur comité en gestation. Un retraité, une fonctionnaire, une cadre commerciale et un étudiant.
On s'est rencontrés ici. Donc c'est le comité de la place Oda. On se réunit, on essaie d'avoir un plan d'action, essayer d'unir et d'assembler les revendications du peuple.
On se sentait frustré de ne pas participer, d'être mis à l'écart. Donc maintenant c'est la rue qui parle, c'est la rue qui décide.
Je ne me suis jamais intéressée à la politique, mais grâce à cet événement, on s'est politisé malgré nous. Tout le monde se sent impliqué. Et tout le monde a envie de changement.
C'est vrai, c'est formidable.
Le retraité, c'est Abderrahman, 78 ans. Lui qui a vécu l'indépendance, la guerre, le terrorisme, ne peut que s'enthousiasmer. C'est une nouvelle démocratie qui est en train d'émerger sous ses yeux.
Elle a commencé à naître dans les discussions ici, dans les quartiers, dans le boulot, partout. Ça discute partout. Chez les étudiants, plein de comités, on les a rencontrés. Il n'y a qu'à voir les âges qu'il y a ici. Il y a du 20 ans, du 15 ans, et il y a du 70, du 80 ici. Ça commence. Ah, il était temps.
C'est un petit peu comme revivre l'indépendance, dit-il, et en ressusciter les espoirs. Une sorte de deuxième étape, finalement. Nous avions libéré la terre, cette fois, c'est le peuple qui se libère. Alger, Sébastien Krebs, Europe.
Voilà, reportage enthousiasmant dans les rues d'Alger sur cette deuxième étape de l'indépendance, comme vous l'avez appelé, Sébastien. Ce que vous décrivez, c'est l'essence même de la politique, finalement, dans toute sa noblesse. C'est vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a des personnalités qui émergent ou pas encore?
Alors oui, il y a un certain nombre de personnalités. Il y a même des sortes de shortlist qui circulent sur les réseaux sociaux avec la liste de ces personnalités qui pourraient, si le gouvernement tombe, prendre potentiellement le relais. Alors il y a des associatifs. On a entendu le président de cette association Rage qui est en première ligne. On cite aussi des militants historiques des droits de l'homme. Et puis il y a des grands avocats du barreau d'Alger. J'ai rencontré par exemple Mustapha Bouchachi. Alors c'est celui dont le nom revient le plus souvent. Il a 65 ans. C'est un avocat pénaliste, ancien président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il a aussi été député avant de claquer la porte en constatant la paralysie totale du Parlement. On parle beaucoup de lui et aussi d'une autre avocate qui s'appelle Zoubida Assoul. Tous les deux m'ont dit exactement la même chose. Pour l'instant, on reste en retrait. C'est un mouvement du peuple. Ils veulent rester discrets au second plan pour ne pas se voir accusés de récupérer le mouvement. Mais on comprend bien qu'ils travaillent, qu'ils se tiennent prêts au cas où. Et par exemple, ils réfléchissent à organiser de grandes assises nationales pour donner la parole à toutes ces franges de la société, notamment à tous ces comités qu'on a entendus.
Ce serait uniquement si le gouvernement actuel et le président par intérim tombaient, ce qui n'a pas l'air de se profiler.
Non, et cela malgré les foules immenses dans les rues. En fait, c'est la position de l'armée qui est derrière et qui campe sur cette idée qu'il ne faut pas sortir des institutions actuelles pour éviter de tomber dans un vide constitutionnel avec tous les risques sécuritaires que ça pourrait entraîner. Mais en même temps, on entend le général Gaïd Salah, vous savez, celui qui a fait tomber Bouteflika, tenter de rassurer les manifestants. Il promet que l'armée protégera toujours les marches pacifiques et il ajoute que toutes les options restent ouvertes pour trouver une solution à la crise.
Merci Sébastien, on espère que les feuilletons suivants seront tout aussi inspirants. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Et on file dans l'Indiana, aux États-Unis. C'est là qu'un jeune maire démocrate a lancé sa campagne le week-end dernier. Pete Buttigieg a un nom à coucher dehors, mais c'est un phénomène.
Europe 1. Notes from around the world. Europe 1. Les carnets du monde.
Il est 13h12, on prend maintenant la direction des États-Unis. Sophie Larmoyer, là-bas, on songe déjà aux prochaines élections.
Le prochain gros scrutin pour gagner le droit de s'asseoir dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, ce sera à l'automne 2020. Dans une éternité, vous dites-vous, et pourtant c'est déjà le branle-bas de combat au sein de la classe politique américaine. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors les Américains démarrent toujours très tôt parce qu'il y a les élections avant les élections, hein, c'est-à-dire les primaires dans chacun des deux grands partis. Aujourd'hui on s'intéresse aux démocrates qui sont déjà à fond.
Ah ça oui, il y a déjà 18 candidats, ils sont déjà en campagne un peu partout aux États-Unis, il y a déjà des émissions spéciales avec les plus connus d'entre eux sur les chaînes d'info. Alors les premiers débats télé entre eux seront programmés en juin et le premier scrutin c'est en février 2020 dans l'Iowa et au bout de ces primaires état par état, eh bien il restera un seul ou une seule champion ou championne des démocrates pour affronter Donald Trump.
Et il y a un candidat qui crève l'écran en ce moment, on va s'y arrêter un petit peu.
Oui, c'est le très jeune maire d'une petite ville d'à peine 100 000 habitants dans l'Indiana. Il était totalement inconnu il y a un mois et aujourd'hui, eh bien, c'est le candidat qui suscite le plus de curiosité sur Internet. Il fait partie de ceux qui ont levé le plus d'argent, c'est le nerf de la guerre, et il a fait une percée spectaculaire dans les sondages. Son visage juvénile avec sa coupe de garçon sage apparaît désormais régulièrement à la télévision.
Et c'est là que je vous demande comment il s'appelle.
Et c'est là que je vous dis que ça se complique parce qu'il a un nom très dur à prononcer. Il s'appelle, écoutez bien, Pete Buttigieg.
Ouais, et ça s'écrit pas du tout comme ça en plus.
Voilà, B-U-T-I-G-I-E-G. Ouais. Alors à la télé au début, on avait droit à un peu tout et n'importe quoi. Et lui-même, eh bien, il en joue, il en a fait un gimmick de campagne. Son nom est écrit en phonétique Buttigieg sur les t-shirts, sur son compte Twitter, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais ça rappelle un autre candidat inconnu à l'époque et dont on moquait le nom bizarre, un certain Barack Obama. Et Pete Buttigieg et l'ancien président ont une amie en commun. Elle s'appelle Renée Ferguson, c'est une ancienne journaliste. Barack Obama était venu lui demander conseil avant de se lancer en politique.
Je lui ai dit que personne dans l'Illinois ne voterait jamais pour un homme noir avec un nom étrange, comme Barack Obama. Mais ils l'ont fait, et tout le pays avec. Parce que ça n'avait rien à voir avec le nom, c'était le message qui comptait. Et c'est pareil pour Pete. Oui, il a un nom difficile. Buttigieg, ce n'est pas facile. Mais nous allons tous le répéter pour ce que ce nom et cet homme représentent. Un message très positif d'espoir.
Sacrée comparaison quand même.
Oui, et d'ailleurs, Barack Obama lui-même avait désigné il y a quelques années Pete Buttigieg comme l'une des 5 personnalités démocrates à suivre. Il faut dire qu'il a une histoire et un CV assez incroyable à seulement 37 ans. Fils d'immigrés maltais, il fait les meilleures études à Harvard et Oxford. Il travaille pour un prestigieux cabinet de consulting. Il revient dans sa ville natale du Midwest, se fait élire maire. Pendant son mandat, il part servir comme officier d'enseignement en Afghanistan. Quand il revient, il annonce publiquement qu'il est homosexuel et il est réélu dans la foulée avec 80% des voix. Alors ajoutez à cela qu'il est un pianiste confirmé et qu'il parle, écoutez bien, 8 langues, dont le norvégien, et oui, le norvégien qu'il a appris pour pouvoir lire dans le texte son auteur préféré.
C'est ce qu'on appelle un phénomène. Alors on va faire un peu plus sa connaissance. Vous êtes allé dans sa ville de South Bend, dans l'Indiana, le week-end dernier, le jour même où il lançait sa campagne. Reportage.
En ce dimanche matin, froid et pluvieux à South Bend, on se donne rendez-vous au Sunrise, le diner familial de la ville. Tabouret cerclé de métal, œufs, bacon et pancakes. Ici, tous les clients se connaissent et tous sont d'accord sur une chose, leur mère est formidable.
Very friendly. He'll call me breakfast.
Il est amical et accessible, dit Janice, la venante patronne qui lui sert régulièrement le petit déjeuner.
Very, very smart.
Il est vraiment super intelligent, il est très bon pour rassembler les gens.
He's very good at bringing people together.
He's an excellent mayor. I was gone for 10 years.
C'est un excellent maire, s'exclame Barbara. Je suis parti pendant 10 ans et en revenant, je n'arrivais pas à croire comme la ville avait changé en mieux. Le policier en uniforme assis au bar montre fièrement une photo de lui avec le maire et même Ralph, son voisin, ne tarit pas d'éloges, lui qui se définit pourtant comme un républicain.
Ah non, je ne suis pas un démocrate, mais je l'aime bien. Ce qu'il a fait pour South Bend, c'est remarquable. Et puis il a un truc spécial, un effet Kennedy. C'est un vrai American boy. Il a servi dans l'armée, il est ouvertement homosexuel, mais sans brandir le drapeau en permanence. Il est parfait.
Un couple arrive, ils sortent de la messe où ils ont serré la main de Mayor Pete, comme tout le monde l'appelle ici. Croyant, Pete Buttigieg met souvent sa foi en avant. Après l'office, lui est reparti chez lui. Une grosse maison bourgeoise à colonnes qui rappelle un peu la Maison Blanche. Il est allé finir d'écrire son discours auprès de son mari et leurs deux chiens. Et pour sa déclaration officielle de candidature, il a donné rendez-vous en début d'après-midi au Building 84, l'ancienne usine automobile. Pour Margaret, c'est un lieu émouvant. Son grand-père et son père y ont travaillé jusqu'à sa fermeture dans les années 60. Ça a été très dur, dit-elle. J'étais petite, mais je me souviens bien. Le bâtiment a ainsi longtemps été le symbole du déclin de South Bend. Pendant 50 ans, la population de la ville a baissé, rappelle Pete Buttigieg quand il prend la parole dans le grand hall de l'ancienne usine. Pour des jeunes comme moi, la seule solution, c'était de partir pour avoir une vie meilleure. Sauf que lui est revenu. South Bend était alors considéré par le magazine Newsweek comme l'une des 10 villes mourantes du pays. Il a relancé le centre-ville. Il a fait revenir de l'activité et des emplois qui attirent les jeunes. S'enthousiasme un vieil habitant. Symbole de ce renouveau, l'ancienne usine accueille désormais des entreprises de technologie dignes de la Silicon Valley. Fort de cette réussite, Pete Buttigieg veut s'adresser à cette Amérique désindustrialisée qui a élu Donald Trump.
C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour raconter une histoire différente que celle de rendre sa grandeur à l'Amérique. Parce que ça, c'est un mythe vendu aux communautés industrielles et rurales. Le mythe que l'on peut arrêter l'horloge et remonter le temps. Ça vient de gens qui pensent que le seul moyen de s'adresser à des communautés comme les nôtres, c'est par la rancœur et la nostalgie.
Dans la foule, son ancien professeur de sciences politiques à Harvard applaudit. Il est l'antidote à Trump, assure David King, qui explique. Comme Trump, Buttigieg n'est pas vu comme un corrompu de Washington et il sait parler à l'américain moyen. Quant à sa jeunesse, c'est un atout, explique lui-même Pete Buttigieg au micro d'Europe 1, en français, l'une des 8 langues qu'il maîtrise.
Notre message, c'est un message d'espoir, c'est un message d'unification, fondé sur l'idée que notre génération doit traiter les problèmes du futur comme des problèmes que nous partageons.
À la fin de son discours, son mari Chasten le rejoint sur scène. Les deux hommes s'embrassent sur la bouche, puis saluent la foule. Une image déjà historique.
Retour dans le studio d'Europe 1. On est toujours en ligne avec Xavier Yvon à New York. Xavier, Mayor Pete revendique son homosexualité de façon très assumée au grand jour. C'est une première, non ?
Ah oui, pour un candidat à la Maison Blanche, certainement. Et ça s'accompagne déjà de problèmes. Cette semaine, des perturbateurs ont interrompu ses réunions publiques dans l'Iowa, au cri notamment de Sodome et Gomorre. Des fanatiques chrétiens qui citent la Bible déguisés en Jésus et en diable. Et à chaque fois, la réponse de Pete Buttigieg, c'est de citer sa propre foi. Il a notamment pris à partie le vice-président Mike Pence, qui est connu pour ses positions anti-gays. Il lui a dit « Si vous avez un problème, ce n'est pas avec moi, c'est avec mon créateur ».
La question qu'on se pose tous, évidemment, est-ce qu'il a une chance ?
Alors, je vous pose aussi une question. Est-ce qu'un milliardaire vedette de télé-réalité avait une chance ? Il y a 4 ans, quand il a annoncé sa candidature depuis l'escalator de la Trump Tower, tout le monde riait de Donald Trump. On connaît la suite de l'histoire. Donc, je vais vous répondre aujourd'hui. Tout est possible. C'est vrai, Pete Buttigieg part de loin. Mais s'il était élu, il serait à la fois le plus jeune président de l'histoire des États-Unis et le premier ouvertement homosexuel.
Bon, par ailleurs, il a une grosse concurrence chez les démocrates.
Ah oui, ça, il y a des poids lourds. Bernie Sanders, vous vous en souvenez, le candidat malheureux face à Hillary Clinton la dernière fois. Le vieux sénateur du Vermont est largement en tête des sondages et des levées de fonds. On attend aussi que Joe Biden se déclare, c'est imminent, c'est l'ancien vice-président de Barack Obama et il sera un des favoris. Il y a aussi une diversité inédite parmi les candidats, beaucoup de femmes, des noirs, des latinos. Kamala Harris, par exemple, la sénatrice de Californie, mère indienne, père jamaïcain, extrêmement compétente et charismatique. Tout ça va être passionnant à suivre.
Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez, Xavier, pour nous raconter des histoires comme celle-là, comme celle de Pete Buttigieg dans les carnets. Voilà, je l'ai dit. Merci beaucoup.
Bravo.
À bientôt, Xavier.
À bientôt.
Europe 1.
À suivre, un livre dans le monde, loin dans le monde, en Tasmanie, pour découvrir un roman qui devrait pas mal cartonner. Et son auteur est venu rencontrer Nicolas Caro.
Europe 1. 13h, 14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Maintenant, un livre dans le monde, c'est le petit moment littéraire des carnets avec vous, Sophie Larmoyer et Nicolas Caro.
Un roman, ça fait beaucoup voyager et parfois loin. Bien le bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
C'est une première, je crois, votre tour du monde littéraire fait escale en Tasmanie.
Mais oui, on était passé à côté depuis toutes ces années. Ouf. Le mal est réparé. La Tasmanie, je rappelle, c'est une petite île située juste au sud de sa très grande sœur, l'Australie. Enfin petite, ça doit représenter quand même 3 ou 4 régions françaises en superficie. Mais c'est vrai que comparé à l'Australie, c'est un confetti.
Et c'est là-bas qu'on trouve les diables de Tasmanie, ces grands marsupiaux.
C'est ça, une espèce protégée. On ne les trouve que sur cette île. C'est fou quand même. Et c'est l'un des sujets de ce roman signé Karen Vigors. Elle est australienne. On lui doit aussi La mémoire des embruns, un best-seller aux éditions Les Escales. Elle revient avec le bruissement des feuilles. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous fiez pas au titre qui sonne un peu contemplatif, j'aime la nature et les forêts. Il y a de ça. Mais c'est aussi un roman à intrigue forte et aux personnages bien dessinés.
Alors qui sont-ils ces personnages ?
Je vous les présente. Le roman commence par une bonne gifle. Mickey est réveillé par son frère, la maison brûle. Elle est engourdie déjà par la fumée, elle a du mal à bouger. Alors Kurt, c'est son frère, la prend et la lance par la fenêtre. On est au rez-de-chaussée quand même. Il sort aussi, il a juste eu le temps de prendre le porte-document de son père. Mais les deux parents, eux, sont restés dans la maison. Mickey et Kurt ne peuvent qu'assister impuissants au terrible spectacle. Wow. Ça, ce sont les deux premières pages. On les retrouve un peu plus tard, jeunes adultes. Ça va un peu mieux dans un restaurant dans une petite ville forestière de Tasmanie. Ils le gèrent tous les deux, ce restaurant. Mais Kurt est assez mal aimable avec les clients. Mickey, elle, arrange toujours tout avec sa bienveillance. Elle donne un petit cadeau au client qui sort un peu fâché. Donc du coup, il revient quand même. Mmh. Ils sont très différents. Bon, on peut comprendre que Kurt soit légèrement traumatisé par ce qui s'est passé, mais ça ne l'excuse pas quand même d'être à la limite de la persécution avec sa sœur, d'autant qu'elle en a un peu marre des carcans. Mickey, sa famille vivait coupée du monde avant que la maison ne brûle. Mmh. Ils étaient en fait chrétiens fondamentalistes, tendance sectaire. Arrive Léon, un beau jeune homme qui fuit un passé et une famille compliquée, décidément. Mmh. Il n'a pas grand-chose, mais il est futé et il vient de se faire embaucher comme garde forestier.
Et c'est la rencontre hein.
Bah, bien entendu. Ouais, ouais. Et ils vont même se lancer dans une aventure forestière un peu folle, sauver les diables de Tasmanie. Du même coup, nous, on visite. En fait, je soupçonne Karen Vigors d'écrire des romans pour décrire d'abord des paysages, pour écrire la nature. Mmh. D'ailleurs, je lui ai posé la question puisqu'elle est passée à Europe 1 cette semaine.
En fait, pour moi, tout commence avec l'endroit et le paysage. Et j'ai besoin vraiment de sentir un lien très fort avec un endroit pour pouvoir savourer sa beauté et même sa terreur. En fait, je commence avec un endroit et puis tout d'un coup, les personnages apparaissent. Et ils ont vraiment un lien très fort avec le paysage. Et en fait, ce sont eux qui lancent l'histoire et qui influent sur la narration. Et en fait, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, de rappeler aux gens l'importance de la nature pour nous.
Est-ce qu'ils vont y parvenir, Nicolas ?
Bah, y a quand même pas mal d'obstacles à franchir d'abord, à commencer par Kurt qui devient franchement lourd, voire menaçant, d'autant qu'il est extrêmement mystérieux ce Kurt. Il refuse de dire à sa sœur ce que renfermait de si précieux le porte-document par exemple. Il y a une pièce au sous-sol du restaurant fermée à clé et Mickey a interdiction d'y entrer. Bizarre quand même, ça fait un peu Barbe Bleue. Ouais. Mais Mickey n'y coupera pas, il faudra affronter Kurt un jour ou l'autre. Je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement un hymne à la nature, c'est aussi très romanesque, c'est pas non plus un thriller écologique, c'est autre chose, mais c'est vrai que la nature, finalement, est l'un des personnages principaux de l'histoire. La nature et son pouvoir, son influence sur nous-mêmes.
La nature peut nous offrir une échappatoire, un échappatoire spirituel qui peut nous permettre d'oublier nos problèmes à la maison ou dans la société. Et la nature est très importante pour moi, c'est là que je me sens vraiment moi-même. Et à travers ce que j'écris, j'essaie de rappeler aux gens ce qu'ils peuvent tirer de la nature. La paix, la solitude, un endroit pour penser. Et même des fois, une façon de penser nos blessures qui sont infligées par la famille et par la vie.
Ça vous parle ça, Sophie ?
Ah ouais, ça me parle.
La nature
pour penser avec un E et pour penser avec un A. Ouais. Le bruissement des feuilles de Karen Vigors aux éditions des Escales. Traduction ?
Aude Carlier et pour la traduction de l'interview, Sarah Rigaud. Merci à elle.
Merci à elle deux et merci à vous, Nico Caro.
Mais merci, Sophie. Europe 1.
Le bruissement des feuilles, l'ode à la nature, ça convient parfaitement à nos deux prochaines invitées. L'une est une grande chef amérindienne. On évoque ensemble les peuples racines.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h30, Sophie Larmoyer. On part maintenant à la rencontre de ceux qu'on appelle les peuples racines.
Ils sont amérindiens, pygmées, maoris. Sur tous les continents, ils vivent sur 22% des terres de la planète, mais dans des lieux qui concentrent 80% de la biodiversité mondiale. Autant dire que ce sont les vrais gardiens de la nature, ces peuples premiers, indigènes ou autochtones. Et dans les carnets, on a décidé de se poser un moment, d'arrêter de courir, pour entendre ce que ces peuples ont à nous dire. Et on va le faire avec et grâce à Saba Rahmani qui nous accompagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et anthropologue et auteur d'un livre paru au début du mois, publié par Actes Sud, « Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre ». Alors ça fait 20 ans que vous travaillez sur cette question des peuples indigènes, des difficultés qu'ils rencontrent, des menaces qui pèsent sur leur culture, parfois leur mode de vie, mais aussi surtout ce qu'ils savent et que nous avons peut-être un petit peu oublié. Dans ce livre, vous nous proposez 19 rencontres avec des représentants Papou, Maasai, Peul, Kanak, Sami et autres. Qu'ont-ils en commun ?
Ben, je dirais cet amour de la nature, parce que c'est des termes qui reviennent beaucoup dans leurs témoignages, et tout simplement cette connexion au vivant, parce que pour eux, l'humain, l'être humain, est partie intégrante de cette nature, et c'est même cette nature qui nous offre la vie, qui permet de nous nourrir, de vivre et de survivre. Et ce fil commun est universel. Et je pense qu'à l'origine, les peuples européens, nous aussi, nous avions cette connexion à la nature et au vivant.
C'est une relation très forte et spirituelle hein, avec les éléments. Ils parlent beaucoup de la terre-mère, du ciel-père, appelé aussi grand esprit, et qu'ils reconnaissent un peu comme créateur de toutes choses. Je résume, mais c'est un peu un dénominateur commun.
C'est tout à fait
commun,
ça, là. Le dénominateur commun aussi, c'est que ce sont ce qu'on appelle des peuples animistes, c'est-à-dire que pour eux, toute forme vivante a un esprit, a une entité. Alors bien sûr, on peut avoir l'esprit de la plante, de la montagne, de l'eau, de la rivière. Ça n'empêche pas d'avoir des échanges avec eux, puisque nous nous nourrissons aussi de la nature et de ses fruits. Et cet esprit animiste, cette spiritualité, fait partie intégrante de leur mode de vie, de leur savoir traditionnel.
Et oui, où qu'ils soient sur la planète, c'est ça qui est assez étonnant. Parmi ces 19 représentants des peuples racines, il y a notamment une femme, chef de tribu, dont le peuple Kariri Choco vit dans le nord-est du Brésil. Et on a eu le plaisir de recevoir la semaine dernière, ici, dans les studios d'Europe 1, cette chef. Elle s'appelle la cacique, c'est-à-dire la chef Ivanice Tanone. Tanone qui signifie justement racine.
Meu nome que significa
Mon nom signifie racine.
Então, por isso
et
que
c'est pour cela
aqui.
Que je suis ici. Car j'ai beaucoup de force en moi. J'ai dû faire face à beaucoup d'épreuves, mais je suis toujours vivante car j'ai une mission à accomplir.
La mia mission na terra.
Voilà, alors il faut imaginer une très belle femme de 65 ans dans une robe colorée avec de belles boucles d'oreilles et surtout une coiffe magnifique faite de plumes de grues et d'aras, ces perroquets multicolores. Saba Rahmani, la cacique Tanone, vous l'avez accueillie et accompagnée tout au long de son séjour en France. Quand elle ne plante pas des arbres sur les quelques dizaines d'hectares de forêt sacrée qui restent à son peuple en Amazonie, elle se déplace pour alerter l'opinion publique et les responsables politiques. Et c'est une alerte écologique.
Oui, tout à fait, parce que c'est une alerte qui concerne à la fois tous les peuples indigènes du Brésil, qui depuis l'élection de Bolsonaro sont vraiment encore plus en grande difficulté, mais c'est aussi une alerte qui concerne toute l'humanité, puisque les peuples racines sont les lanceurs d'alerte, ils sont les premiers sur le front des problèmes climatiques et écologiques auxquels leurs territoires sont confrontés, puisque vous l'avez très bien dit au début de l'émission, leur territoire représente 80% de la biodiversité mondiale. Donc c'est énorme. Elle se déplace pour alerter les politiques, les citoyens, et en leur disant « Stop, attention, ce mode de vie est en train de nous détruire, nous, peuples indigènes, mais aussi va vous détruire après. »
Ouais. Elle alerte notamment sur la sauvegarde du fleuve San Francisco qui passe sur les terres de Kariri Choco, des Kariri Choco, et qui est terriblement pollué par l'activité humaine. Elle nous a expliqué ça.
Então, foi pelo rios.
Aujourd'hui, nous avons commencé à détruire les rivières. Elles s'assèchent. Les poissons de la mer, par exemple, arrivent aujourd'hui dans notre rivière. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Tous les politiques qui sont arrivés à la présidence du Brésil ont vendu notre rivière sacrée, le fleuve San Francisco, que nous appelons Chico. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup de tout ça car nous avons de moins en moins d'eau et cette eau que nous buvons provoque beaucoup de maladies au peuple Kariri Choco. des maladies que nous n'avions pas avant, comme le diabète, la tension, des problèmes de cœur. Nous étions riches de notre eau et aujourd'hui, on ne l'est plus.
Alors, cette pollution de l'eau et l'assèchement des rivières est complètement liée à une autre activité humaine terrible en Amazonie qui est la déforestation. La cacique Tanoné nous en a parlé aussi.
Si nous détruisons les arbres,
la terre mère s'affaiblit et nous ne pouvons rien attendre d'elle. Par exemple, sans les arbres, les vents soufflent et commencent à tout détruire.
Les ruralistes, c'est-à-dire les politiciens qui soutiennent l'agro-business et les grands fermiers ont acheté les gouvernements. Nous avions toujours l'espoir qu'un bon gouvernement arrive au pouvoir. Mais finalement, nous sommes de plus en plus pauvres en arbres natifs, en arbres qui nous donnent à manger, en arbres sacrés. Tout cela est détruit.
Productiva, sagrada, tout est détruit.
Sabaramani, la cacique Tanoné, par exemple, elle est allée en justice pour essayer de préserver les 12 hectares où est installé son village. Elle a gagné. C'est une lutte pour la survie, en fait, face à ceux qui déforestent pour avoir du bois, de nouvelles surfaces agricoles, l'accès aux richesses du sous-sol, c'est ça ?
Oui, tout à fait, parce que l'histoire des peuples autochtones un peu partout dans le monde, c'est toujours un peu aussi l'histoire postcoloniale et coloniale, parce que les séquelles sont encore visibles aujourd'hui. Ils ont dû affronter la spoliation de leurs terres, la violence de cette rencontre avec le peuple colonisateur. Et aujourd'hui, ils ont besoin de reconquérir, parce que elle disait, la cacique Tanoné, que la première fois que je l'ai rencontrée, un Indien sans terre n'est plus un Indien. Si on s'attaque à leur territoire, ils vont perdre leur culture, leur langue, leur savoir-faire et toute cette richesse dont nous aussi, en Occident, on pourrait bénéficier.
Pour évoquer l'exploitation de l'Amazonie, dans votre livre, vous parlez d'écocide et d'une volonté à peine déguisée de nettoyage ethnique. C'est extrêmement fort. C'est particulièrement le cas aujourd'hui dans le Brésil de Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite.
Ben oui, parce que quand il a décidé de prendre le pouvoir, il a dit qu'il ne céderait pas un seul centimètre de plus de terre aux indigènes. Et pour lui, il les voit comme des ennemis contre, soi-disant, le progrès, mais c'est pas le progrès, c'est de la destruction. Et Bolsonaro voit les indigènes comme des gens arriérés, à culturer, à moderniser, mais il a un manque de respect envers eux absolument total, puisqu'il les assimile à des personnes qui vivent dans des eaux, avec cette idée idéologique de croire qu'il va leur apporter la bonne parole, la civilisation. Mais qui est civilisé dans cette histoire ?
En tout cas, la question de la délimitation des terres indiennes a été rattachée au ministère de l'Agriculture le premier jour de sa nomination, ce qui est un symbole évidemment assez terrible.
Terrible, d'autant plus que normalement la FUNAI, la Fondation pour l'Indien, était rattachée au ministère de la Justice, qui était censé protéger le statut indigène. Et effectivement, il a transféré les compétences au ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce qu'il est très lié à l'agrobusiness, aux fermiers qui vont évidemment voir l'Amazonie comme une ressource à exploiter.
Sabaramani, on va poursuivre ensemble cette discussion dans quelques instants. On vient d'évoquer surtout ces dangers qui pèsent sur les peuples indigènes, mais il y a aussi beaucoup à dire sur ce qu'ils peuvent nous apporter. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer. Suite de ce dossier des carnets sur ce qu'on appelle les peuples racines, c'est-à-dire les peuples indigènes ou autochtones, et qui nous alertent pour sauvegarder les écosystèmes menacés.
Mais oui, vous êtes bien sur Europe 1, bercé par le maracas de la cacique Tanoné, cette chef de tribu brésilienne venue nous parler de son peuple, les Cariri Choco. Et au-delà, nous évoquons tous ces peuples racines, véritables gardiens de la nature, et qui s'alarment de plus en plus ouvertement de ce que nous en faisons. Ces indigènes sont 370 millions, ils parlent plus de 4000 langues et veillent sur 80% de la biodiversité mondiale. Sabaramani nous accompagne, journaliste et ethnologue. Vous signez un recueil de témoignages de chefs traditionnels, militants, artistes, rassemblés autour d'un plaidoyer pour la terre. Alors ce sont des personnes
C'est vrai, très pittoresque, hein, folklorique. Quand la cacique Tanoné a traversé la rédaction la semaine dernière avec sa coiffe de plume, elle a été très admirée. On se souvient aussi du chef Raoni avec son disque de bois sous la lèvre inférieure. Mais au-delà de la curiosité que toutes ces personnes provoquent, elles viennent nous rappeler qu'on a des intérêts communs et que malgré nos différences, on est finalement complémentaires. Vous écrivez que ces peuples racines nous tendent un miroir.
Complètement, oui, parce que je trouve que cette terminologie de peuple racine est intéressante parce qu'ils ont un lien très fort avec les arbres qu'ils considèrent comme nos frères, hein, comme les êtres vivants qui peuvent nous nourrir. Mais aussi, ils nous rappellent que quelque part, en Occident, nous nous sommes déracinés nous-mêmes. Nous nous sommes déconnectés de ce lien au vivant, de cette nature qui nous fait vivre. Et dans cette course effrénée à cette modernité, à la technologie, on a oublié que tout ça, ça venait aussi de la nature.
Mais alors finalement, est-ce que tout ça ne serait pas assez moderne quand on voit des jeunes à travers le monde, derrière la jeune Suédoise Greta Thunberg qui manifeste chaque semaine pour un autre modèle de société plus durable. Est-ce que ce ne sont pas finalement deux discours qui se rejoignent complètement aujourd'hui ?
Mais oui, il y a une convergence des consciences, je dirais, entre les revendications de la lutte écologiste et puis les revendications de la lutte des peuples autochtones.
Puisque c'est et une revendication peut-être encore plus citoyenne et pas forcément de militant aujourd'hui.
Oui, mais parce qu'elle concerne tout le monde. La nature n'appartient pas qu'aux militants, elle appartient à tous les êtres vivants. Et c'est, ils viennent nous rappeler ça et ce miroir qui nous tente, c'est de dire... Réveillez-vous, réveillez vos consciences, que le monde est en train de partir en vrille, mais nous sommes là pour vous donner l'alerte et vous, citoyens, vous pouvez nous aider parce que c'est vrai qu'ils sont en train de perdre confiance envers les politiques et les industriels qui sont aussi à la source de un peu de leur malheur et de leurs problèmes avec l'exploitation des ressources minières, des ressources naturelles sur leur territoire et toute la discrimination auquel ils doivent faire face aussi. Mais ces peuples racines sont pas du tout tombés dans la rancœur en nous disant « Vous, le blanc, les anciens colons, vous êtes responsables de tout notre malheur ». Ils nous tendent malgré tout la main. C'est-à-dire, nous pouvons faire des choses tous ensemble.
Est-ce que ça rejoint aussi une tendance assez marquée d'une génération aujourd'hui qui dit vouloir vivre autrement ? On voit un petit peu le retour à la terre ou à plus de simplicité. Je pense aussi à cet engouement pour la méditation un peu partout.
Oui, alors ça me rappelle un petit peu dans le livre, il y a un Mapuche qui est équivalent d'un chaman qui vient du Chili et qui dit « Qu'est-ce que c'est la modernité ? Qui sont les modernes ?» Pour lui, la modernité, c'est retrouver cet équilibre entre l'homme et la nature. Donc, ça nous interroge. Il ne faut pas voir, je pense, ce retour à la nature comme quelque chose de réactionnaire, de traditionnaliste, dans le mauvais sens du terme.
Pas une régression.
C'est pas une régression, un retour en arrière. Au contraire, c'est la recherche de l'harmonie. Et ce que nous apprennent et ce que nous rappellent ces peuples-là, c'est de nous voir comme une globalité vivante et qu'on n'a pas à se couper de, non pas seulement de la nature, mais non pas se couper de nous-mêmes.
À propos de modernité, dans les 19 témoignages que vous proposez dans votre livre, il y a des vieux chefs traditionnels, mais il y a aussi plein de jeunes et qui sont parfois gardiens des traditions et complètement ancrés dans la modernité. Je pense à deux jeunes femmes, une en Finlande, une à Taïwan.
Tout à fait. Sinsu, qui est un Taïwan du peuple Popora, qui est ingénieur et qui, c'est très intéressant parce que ses études en climatologie lui ont permis de converger le savoir traditionnel transmis par sa mère et sa grand-mère et le savoir qu'elle a acquis à l'université grâce à la science et grâce à la convergence de ces deux savoirs, elle a pu se rendre compte que toute la terminologie de la langue traditionnelle Popora était aussi un indice pour repérer les lieux qui était susceptible d'être modifié avec le changement climatique ou avec les tempêtes, les typhons. Et grâce à la convergence de ces deux connaissances, elle peut lancer l'alerte et prévoir les catastrophes. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous montre que science et savoir traditionnel ne sont pas incompatibles et que leur savoir traditionnel est loin d'être irrationnel puisqu'il est basé sur un savoir empirique depuis des millénaires.
Et en même temps, elle dit parfois il y a un petit conflit de génération quand ma mère, qui est très, très en empathie avec les plantes et qui fait pousser n'importe quoi, me dit « Et toi, jusqu'à quelle taille peux-tu faire pousser une papaye en parlant à l'arbre ?» Essaye de lui parler, ça la laisse un petit peu pantoise.
Mais oui, parce que sa fille était surprise, voilà. Était surprise de voir que la taille de la papaye du jardin de sa mère, alors qu'ils ne mettent aucun engrais, était beaucoup plus grosse que celle des autres. Et elle s'est dit « Mais comment tu fais ?» Et sa mère lui a répondu répondu avec beaucoup de sagesse cette question-là.
Je parlais aussi d'une jeune femme en Finlande. C'est une fille d'éleveur de rennes et de pêcheur qui a fait des études de droit et de relations internationales, qui est aujourd'hui conseillère au Parlement Sami, donc qui est un parlement autochtone en Finlande. Là aussi, modernité et tradition sont complètement liées.
Oui, et c'est pas incompatible. Souvent, ils le disent. Et ce sont pas des personnes qui veulent rester enfermées complètement dans une histoire figée, parce que c'est pas le cas. Les peuples autochtones ont toujours eu aussi une évolution. Et ils nous disent, nous, on veut le meilleur des deux.
Il y a des jeunes, et puis il y a aussi des vieux chefs traditionnels. Je pense à François Paulette, donc, qui est au Canada, qui est engagé depuis très longtemps face aux compagnies pétrolière qui fort sur les terres de sa tribu, les Dene. Et c'est lui qui a inspiré le film Avatar à James Cameron.
En partie, c'est-à-dire que James Cameron, avant de réaliser son film, est venu rendre visite à François Paulette pour justement s'inspirer de la sagesse des peuples racines, s'inspirer de leur rapport à la nature. C'est vrai que voilà, la première fois que j'ai vu le film Avatar, je me suis dit, mais c'est complètement une transposition de la lutte des peuples autochtones face aux compagnies minières.
Voilà, ils s'organisent, les peuples racines, en 2015, à l'occasion de la COP21 à Paris. Ils se sont réunis pour créer une alliance des gardiens de mère nature et ils proposent depuis des solutions pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux.
Tout à fait. Notamment, il y a tout un projet de sanctuarisation des forêts primaires, puisque là où les peuples autochtones habitent, et puisqu'ils ont su préserver jusqu'à maintenant cette biodiversité depuis des millénaires. Et là, ils se proposent d'être vraiment les gardiens de cette mère nature, sans rentrer pour autant dans le marché carbone de compensation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Parole des peuples racines, c'est publié par Actes Sud dans la très riche collection Domaine du Possible. Il y est question d'arbres, beaucoup, de liberté aussi, d'être soi-même et de vivre ensemble. Quelques éléments de réponse à notre modèle économique qui parfois s'essouffle un petit peu. Je cite aussi la revue pour laquelle vous travaillez, Sabaramani, c'est Kaizen, une revue pour construire un autre monde, pas à pas, tout un programme. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci
aujourd'hui sur Europe 1. Et on va terminer sur un chant sacré que nous a offert la cacique Tanoné quand elle est venue nous voir. Elle a enlevé ses chaussures et puis elle a chanté.
Merci.
Natekie.
Obrigado.
Europe 1.
Retour sur Terre, mais toujours un peu ailleurs, puisqu'on file en Autistan avec Joseph Chovanec. Il nous embarque au pays des cathédrales.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51, c'est le moment de notre petit voyage en Autistan, Sophie Larmoyer, avec bien sûr Joseph Chovanec.
Joseph, c'est notre chroniqueur voyageur, autiste Asperger, qui se nourrit de ses nombreux voyages pour observer la comédie humaine et interroger le vivre ensemble. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
C'est Notre-Dame qui vous a inspiré quelques réflexions cette semaine.
Oui, âme de Paris, symbole de la France, ces expressions et beaucoup d'autres, on les a utilisées après l'incendie que l'on sait. Beaucoup de gens ont été surpris de découvrir en eux-mêmes l'importance de cette cathédrale. Et il y a comme ça, à travers le monde, des lieux, des bâtiments, des objets qui incarnent beaucoup plus fortement que d'autres le devenir humain.
Vous pensez à quel lieu en particulier ?
Sophie, je m'en étais rendu compte lorsque, un jour, jeune militant dans l'autisme, j'avais visité Notre-Dame de la Garde à Marseille, avec un vieux monsieur en apparence inébranlable comme un roc, mon ami. Mais à l'entrée de la cathédrale, il s'était mis à pleurer, parce que pour lui, la cathédrale de Marseille évoquait celle d'Alger, Notre-Dame d'Afrique, sa symétrique, sa sœur, par-delà la mer. Et c'était toute sa jeunesse qui lui revenait à l'esprit. Et à Prague, selon certaines études, la ville la moins religieuse au monde, Notre-Dame a son équivalent. C'est la cathédrale Saint-Guy. Avec l'immense château qui l'entoure, elle est visible de quasiment n'importe quel point de la ville. Elle représente le symbole ultime de l'état de la nation. Mais d'une certaine façon, c'est le point matriciel commun.
Même pour les athées.
Oui, il n'est pas question de religion ici, Sophie. C'est quelque chose de plus profondément humain encore. La cathédrale de Prague est au croisement de toutes les histoires. Entre la grande histoire officielle, celle des premiers enterrée dans les ténébreuses cryptes, hein, celle des générations de bâtisseurs au Moyen-Âge, un peu comme Notre-Dame à Paris, mais aussi l'histoire culturelle, littéraire, puisque le château de Kafka n'est autre, évidemment, que le château cathédral de Prague, et les mythes auxquels tout le monde croit. Par exemple, à propos de l'objet le plus précieux et sacré de la cathédrale de Prague, à savoir la couronne de Saint Venceslas.
Alors, qui était, je le précise, un souverain tchèque au siècle 1er, duc de Bohême, et qui est devenu saint patron de la République tchèque.
Oui, elle nous vient des profondeurs du Moyen-Âge, faite d'or, de pierres précieuses et de perles. Mmh. Elle a un sentiment surnaturel. Et qui que l'on soit, on oublie toute la modernité. Les genoux se mettent à trembler et on replonge un peu dans les siècles passés. Et je ne l'ai vu qu'une seule fois, quelques instants, mais jamais je ne l'oublierai. Le pouvoir magique de la couronne serait le suivant. Si quelqu'un d'autre que le souverain légitime la pose sur sa tête, il mourra avant un an et un jour. Au plus fort de la répression nazie, le bourreau Heydrich avait, en novembre 41, exigé qu'on lui remette le trésor inestimable. Et par défi, il avait posé la couronne sur sa tête. Et il mourut peu après.
Ah, quand les pouvoirs magiques s'en mêlent.
Oui, mais peut-être que l'histoire la plus singulière de ce type, évidemment, concerne l'Éthiopie. Un jour, j'étais nouvelle étudiante de vieil éthiopien, ou gueuse pour les intimes. J'annonnais un texte devant le prof et j'étais son unique élève parce que, oui, Sophie, le vieil éthiopien n'attire pas les foules. Je ne comprenais pas un mot. Il était question d'une mère, d'une maman dans le texte. Et le prof de me dire que c'était le nom affectueux de la cathédrale la plus sacrée d'Éthiopie, Sainte-Marie de Sion à Aksum. Un moment de stupeur pour moi. Pour tous les Éthiopiens jusqu'à ce jour, c'est là que repose depuis 3 millénaires la fameuse arche de l'alliance biblique, donc issue de Moïse avec les tables de la loi, donc que le roi Salomon aurait donné aux Éthiopiens. Et pendant des années, Sophie, j'avais réfléchi à un truc, une astuce qui permettrait de vérifier cette histoire, donc de voir si dans la cathédrale il y a réellement l'arche de l'alliance. Mais hélas, l'entrée est rigoureusement interdite aux visiteurs, puisque la Bible dit bien que quiconque touchera indûment l'arche Mot Yamut mourra certainement. Donc seul un gardien unique y réside. Et le détail qui fait frissonner, c'est qu'à son entrée en fonction, généralement, ce gardien perd rapidement la vue. J'adore ces histoires, Sophie. Au-delà de la rationalité, il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. C'est peut-être cela, la condition de notre vivre ensemble.
Oui, on a vu en tout cas comment... Les gens s'étaient rassemblés autour de Notre-Dame, justement, toute cette semaine. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
Merci, à très bientôt.
Europe 1.